du nouveau sur la genèse du Da Vinci Code. Au cœur de tout grand mythe gît une part de vérité. Le succès planétaire du Da Vinci Code de Dan Brown ne fait pas que recycler les délires de Pierre Plantard, ce mythomane fascisant qui se faisait passer pour le dernier descendant des Mérovingiens et prétendait connaître l'origine du trésor trouvé dans son église par le curé de Rennes-le-Château. Dans Société secrète, Alexandre Adler nous entraîne à la recherche d'un réseau ésotérique européen qui partirait des Templiers frottés de mystiques musulmanes jusqu'à une franc-maçonnerie spiritualiste en passant par la Rose-Croix et autres jansénistes. Ce qui aurait fédéré tous ces courants chrétiens plus ou moins syncrétiques, une même volonté d'en découdre avec un catholicisme de combat, ultramontain et autoritaire, incarné par les jésuites et les Habsbourg et porté à incandescence durant la contre-réforme. C'est du côté de ces chrétiens de Renaissance, vaguement regroupés par une même quête mystique dont le combat de Jacob et l'ange de Delacroix nous livrerait l'ultime testament, qu'il faudrait chercher les véritables origines du mythe des Illuminati sur lesquels Dan Brown a fait son beurre. Rarement en tout cas autant d'érudition aura été déployée pour éclairer des vrais enjeux intellectuels de ce qui reste un best-seller bien torché et bourré d'emprunts. Reste la question de l'ingrédient basique de cette recette qui marche. Le conspirationnisme, l'idée que les choses ne se produisent pas par hasard, qu'il y a des forces secrètes qui tirent les ficelles. L'état du monde est le fruit de rapports de forces complexes et difficiles à décrypter. Il est intellectuellement plus facile de l'attribuer à l'action de forces obscures disposant d'un pouvoir absolu, sages de Sion, Opus Dei, francs-maçons, CIA, synarchie. La propagande totalitaire, disait Hannah Arendt, a recours à des théories fumeuses, expliquant la totalité des accidents de l'histoire par un mystère central. Ces théories répondent bien aux aspirations des masses modernes qui, je la cite, « ne font confiance ni à leurs yeux ni à leurs oreilles, mais à leur seule imagination, qui se laissent séduire par tout ce qui est à la fois universel et cohérent en soi-même ». Fin de citation. La cohérence de la fiction s'avère plus convaincante que le chaos présenté par le monde réel. Car, nouvelle citation d'Hannah Arendt du même livre Le système totalitaire, la fuite des masses devant la réalité est une condamnation du monde dans lequel elles sont contraintes de vivre et ne peuvent subsister puisque la contingence en est devenue la loi suprême et que les êtres humains ont besoin de transformer constamment les conditions chaotiques et accidentelles en un schéma d'une relative cohérence. Bref, le paradoxe voudrait donc que le roman de Dan Brown ait puisé dans une tradition intellectuelle émancipatrice les ingrédients d'une fiction conspirationniste.
Alors nous sommes évidemment en compagnie d'Alexandre Adler pour en parler. Alexandre Adler, je ne sais pas s'il faut le présenter aux auditeurs de France Culture, journaliste, historien et bien évidemment chroniqueur tous les matins dans l'émission d'Ali Badou. Auteur là donc de ce dernier livre intitulé Société secrète de Léonard de Vinci à Rennes-le-Château qui est coédité par Grasset et France Culture qui vient de sortir. France Culture qui en effet a récolté en primeur si j'ose dire les fruits de cette enquête menée donc par Alexandre Adler, c'était sorti sous la série d'émissions intitulée « Histoire de Da Vinci Code » et vous avez donc pu déjà en entendre, sinon la totalité, du moins quelques épisodes. Antoine Vidkin, vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires à la télévision, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, le dernier c'est « La tentation de la défaite » chez La Martinière en 2006, et puis auparavant, parce que ça a peut-être davantage de lien avec l'émission d'aujourd'hui, « Les nouveaux imposteurs » qui étaient parus aussi chez La Martinière en 2005. Et Frédéric Charpier, qui est écrivain, journaliste, auteur d'un ouvrage paru en 2005 chez Bourin Éditeur, L'obsession du complot, qui est un ouvrage que Brice Couturier avait particulièrement apprécié et qui fait que, voilà, 2 ans après sa parution, il est encore d'actualité.
Alors, je citais Hannah Arendt pour commencer, Alexandre Adler. C'est vrai qu'en éliminant les coïncidences, on arrive à inventer l'idée, le mythe d'un pouvoir suprême et universel qui est censé être à l'origine de tous nos petits accidents de l'histoire. C'est le principe même de ce qu'on a appelé la causalité diabolique, et c'est le levier même de l'antisémitisme. Dans le code, le Da Vinci Code a été commenté de toutes sortes de manières, en particulier par Marie-France Etchegoyen et Frédéric Lenoir, qui l'avaient critiqué sous cet angle-là, en disant que profondément, c'était un livre à message subliminal, je résume, c'était un livre à message subliminal antisémite. Vous le tirez dans une toute autre direction, qui est celle, donc, j'ai essayé de le dire en deux phrases, mais c'est un livre de 300 pages, donc l'exercice est toujours risqué, du côté plutôt de ce réseau d'intellectuels européens qui ont tenté une synthèse entre différentes traditions chrétiennes frottées de judaïsme et d'islam mystique, et qui auraient, d'après vous, tenté de résister à l'époque en particulier, encore une fois, de la contre-réforme, à l'influence délétère des jésuites et des Habsbourg. Donc il y a à la fois une dimension religieuse et une dimension politique. Est-ce que vous nous expliquez un peu plus ce que vous entendez dire par ce réseau? Qu'est-ce que vous avez trouvé?
D'abord, il faut dire que la phrase de Hannah Arendt que vous citez est parfaitement fondée, en tout cas pour ce qu'elle dénonçait à ce moment-là, mais c'est un peu comme la physique newtonienne qui est parfaitement applicable pour de petites vitesses. C'est-à-dire qu'en fait, dans la République de Weimar, le discours de l'extrême droite nazie était un discours de dévalorisation et de doute radical porté sur les décisions des partis démocratiques. Tout ça n'était qu'une scène factice. Derrière les partis démocratiques, il y avait les tireurs de ficelles. Bien entendu, c'était les banquiers juifs et les agitateurs communistes juifs qui étaient unis par une même appartenance. Et donc, on voit très bien ce qu'elle avait en tête. Et elle avait raison. Et bien entendu, dans cette attaque contre la prise de décision démocratique et contre le côté aléatoire, précisément, et libre de la vie démocratique, il y a tout le caractère totalitaire, enfin j'aime pas le mot totalitaire, tout le caractère fasciste et brutal des théories du complot. Et on le voit bien, les théories du complot fleurissent en fait en réponse, en racine inverse, disons, du degré de démocratie. Chez nous, moins il y a de démocratie, et plus les théories du complot sont valides, plus il y a de démocratie, plus elles sont des ridicules. Alors cela dit, même les paranoïaques ayant des ennemis, je pense que malgré tout, il faut prendre en compte tout simplement la réalité des 16e et 17e siècles, où on est encore au bûcher pour des idées qui n'étaient pas tout à fait orthodoxes, où non seulement l'Église avec le Saint-Office, mais aussi les pouvoirs politiques n'hésitaient pas à supprimer les gêneurs, exactement comme en Union soviétique, exactement comme un certain nombre de despotismes du Moyen-Orient. Et le goût de l'explication par le complot n'est donc pas au départ seulement celui que dénonçait Hannah Arendt dans la phase de d'effervescence démocratique de l'Allemagne de Weimar, il est aussi celui tout simplement de l'habitude des gens. Alors il y a des caricatures à Beyrouth, hein, quand un obus tombait là, comme ça sur un quartier, les gens disaient « Ah, la Syrie est mécontente, est mécontente des États-Unis ». Enfin bon, ça pouvait être ridicule. Il n'empêche que, même lorsque l'on voit une politique aussi ouverte que celle du gouvernement de Fouad Signora au Liban, elle commence par une affaire assez ésotérique, c'est la réconciliation des deux principaux clans druzes, les Yazbeki et les Djumblati. Et à ce moment-là, la communauté druze réunifiée engage un dialogue avec le patriarche maronite, et c'est donc l'idée de chasser les Syriens par une union des chrétiens et des druzes qui ne s'était jamais réalisée depuis un bon siècle. Et la suite est connue, c'est Rafik Hariri qui vient couronner cette opération et puis l'assassinat de Rafik Hariri. Donc il y a des complots. Et plus on remonte dans l'âge moderne et plus il y en a. Et la personne qui m'a éclairé sur la Rose-Croix, qui est un élément central bien plus important que René Le Château, qui n'est qu'un petit symptôme.
Frances Yates,
ce que je dis, donc je qualifie d'Agatha Christie de l'érudition contemporaine, qui est une des grandes historiennes du XXe siècle, a été anoblie, Dame Frances Yates, comme Dame Agatha Christie d'ailleurs.
Elle est très peu connue en France.
Elle est peu connue en France, où elle a commencé à être traduite par un livre chez Gallimard, qui, pardon, Pierre Nora, n'était pas le plus intéressant, chez des éditeurs d'ésotérisme, ce qui est quand même un comble pour une femme qui a démystifié l'ésotérisme. Mais enfin, petit à petit, elle a été réhabilitée. Mon épouse Blandine Criégel a publié des livres d'articles d'elle, commence à la connaître. Là encore, il y a une conspiration très amusante, c'est qu'elle a passé sa vie à l'Institut Courtauld avec Anthony Blunt, qui était un principal agent du KGB, et fasciné par Poussin, évidemment, les sociétés secrètes se répondent, et elle a petit à petit décrypté tout ce qu'il y a d'abord autour de l'entourage de Shakespeare, à l'époque élisabéthaine, et puis Giordano Bruno, personnage exceptionnel, donc philosophe pré-moderne, qui est au fond le maillon manquant reliant les philosophies de la nature de la Renaissance et Galilée, qui était aussi un agent secret. Agent secret d'Henri III et de la reine Élisabeth, agent anti-espagnol, qui est arrêté pour cette raison par l'Inquisition à Rome et qui sera brûlé sur le Campo dei Fiori en 1603. Mais ce ne sont pas ses idées absolument révolutionnaires en matière de cosmologie, c'est en fait sa participation à tous ces cénacles européens qui partout s'opposent à l'intolérance. Et alors, petit à petit, ça se reconstitue. Parce que qui est l'ami de Giordano Bruno d'abord? Un certain Zorzi, qui est un kabbaliste chrétien de Venise. Et là, on a une petite académie vénitienne qui tient à toute force à l'esprit de liberté de la République de Venise, avec le frère Paolo Sarpi, qui est le grand critique du Concile de Trente. Ensuite, on retrouve ce même groupe à travers Marguerite de Navarre à Pau, c'est-à-dire des protestants et des catholiques qui sont à l'origine du mouvement de Henri IV, liés au mouvement élisabétain par le comte d'Oxford. Et on voit bien que la reine Élisabeth et Henri IV ont marché la main dans la main. Ils ont même, selon les mémoires de Sully, préparé un projet d'union de l'Europe. Et enfin, on se reporte à l'autre bout du continent, Prague, où Rodolphe de Habsbourg, grand fou devant l'éternel, mais d'une sainte folie, s'oppose à son cousin Philippe II, fait venir l'astronome Tycho Brahe, diffuse la philosophie copernicienne, mais aussi la magie, avec John Dee, qui est probablement le premier chef de l'intelligence service, parce que les Anglais sont aussi à Prague, et puis tant d'autres, qui essaiment ensuite dans toute cette Europe et qui créent les premières lumières, selon le mot, de Francis Yates. Et à la fin de cette histoire, nous avons Isaac Newton, Robert Boyle et Christopher Wren, l'architecte de Saint-Paul, qui, justement, crée, après l'invisible société qui était le dernier surgeon de cette Rose-Croix, la société royale, c'est-à-dire la première académie des sciences de l'Europe moderne, et vont accoucher de la franc-maçonnerie, qui est justement pas une société secrète, mais une société ouverte à partir de 1717. Et, au passage, en France, qui sont les correspondants, après Henri IV et son entourage et Sully? Ce sont les jansénistes, c'est-à-dire cette fraction du catholicisme français, le protestantisme s'est induré petit à petit, qui, au fond, cherche l'entente avec les protestants, cherche à créer une église gallicane sur le modèle de l'église anglicane, cherche surtout à obvier à l'influence de Rome et de l'Espagne. Et donc, il y a beaucoup de sens à ce que cette société ait été à la fois un mouvement culturel et un mouvement politique. Et après tout, regardez l'international communiste, il y a une dimension KGB sur laquelle je souriais, mais il y a aussi une dimension philosophique, avec des gens comme Lukács, comme Gramsci, comme Georges Politzer, il y a une tentative aussi d'expliquer le monde. Et bien, à certains égards, la Rose-Croix a été cela. Et la Rose-Croix est liée à un personnage qui lui-même fut évêque à côté de Rennes-le-Château, et qui fut très lié à la construction de Saint-Sulpice. C'est pour ça que les mythes remués par Plantard et auparavant par le curé Saunière, quand même, tombe là sur une couche dure, si vous voulez. Là, vous êtes sur du roc. Il y a quelque chose qui s'est passé, en effet. Et pourquoi là-bas? Pourquoi Nicolas Poussin? Ça, ce sont de vraies grandes questions.
Alors peut-être, on va demander à nos deux spécialistes, qui sont des spécialistes en dénonciation des théories du complot ou de l'obsession du complot, comment ils réagissent à cette espèce de réhabilitation, si j'ose dire.
Partielle.
Surtout, je rappelle que l'actualité, c'est Catherine qui montre bien que le complot, ça existe.
Oui, quand il n'y a pas de liberté.
C'est pas forcément une réhabilitation, parce que Alexandre Adler a fait justement ce qu'il faut faire face à des choses qui sont effectivement des mystères, puisque l'histoire est pleine de mystères, de complots, de sociétés secrètes, évidemment, ça fait partie de la marche du monde. Et Alexandre Adler a fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire une enquête. Et contrairement à Dan Brown, qui à partir effectivement de choses réelles qu'il avait entrevues, ou lui-même, ou plus souvent par les yeux de gens comme Plantard, qui eux étaient à 90% des affabulateurs, Alexandre Adler, il est allé s'intéresser aux 10% qui étaient passés entre le tamis de Plantard, et puis rechercher ce que cette affaire des Rose-Croix, des Templiers, etc., révélait. Et donc, il faut être assez clair sur les termes. Le problème, ce ne sont pas, enfin, le problème à mes yeux, ce ne sont pas les complots, l'existence de complots, mais ça n'est que les théories du complot, c'est-à-dire qui dénoncent ou entendent révéler l'existence de complots sans entrer dans la logique de la preuve. C'est tout, c'est assez simple d'ailleurs à comprendre, et effectivement on peut, alors sur tel et tel sujet, enquêter avec cette logique de la preuve. Et effectivement, j'ai lu avec intérêt, sans toujours tout comprendre, le livre d'Alexandre Adler, parce que je n'ai pas son érudition et j'ai encore du mal à passer des jésuites à Jumblatt dans la même phrase. Mais voilà, il a fait, c'est une belle enquête, c'est passionnant, c'est étonnant. Et bien sûr que le Damasicode n'est pas seulement qu'un tissu d'idiotie ou d'ineptie.
Et vous, Frédéric Charpier, votre
réaction? J'ai pas lu le livre d'Alexandre Adler.
On en a très envoyé.
Dès que je le verrai en librairie pour l'acheter. En revanche, dans l'ambiance, ça me rappelle un peu, peut-être que je me trompe, parce que c'est que, par rapport à ce que vous m'avez dit, le livre d'Eco, Le Pendule de Foucault, c'est-à-dire, on est dans une ambiance.
Tout à fait.
C'est celle que j'ai repérée dans votre manière de parler du sujet. Deuxièmement, vous avez évoqué, enfin, tous les soubassements de la création de la franc-maçonnerie, c'est important. Parce que le conspirationnisme va construire sa première grande théorie à partir du complot maçonnique, de travers le livre de Baruel.
Et l'abbé Maury.
Donc c'est très important d'évoquer ce que vous avez fait, ces arrière-plans. On ne peut pas aborder le conspirationnisme sans penser effectivement aux arrière-plans. C'est-à-dire d'abord, sur le plan chronologique, la constitution du premier, la première thèse conspirationniste, en France et aux États-Unis, quelques temps après, d'ailleurs, quasiment simultané, avec deux personnages, Robison, vous devez connaître aussi, qui est un Américain qui a, juste au même moment que Baruel, rédigé un ouvrage qui définissait à peu près le même type de conspiration aux États-Unis, pour mettre en garde, etc., comme d'habitude. Donc après, vous avez l'enchaînement diabolique avec le complot juif, qui vont se marier finalement, et pour aboutir dans l'union du complot judéo-maçonnique. Alors moi, ce qui m'a intéressé, moi, dans mon enquête, c'est moins de dénoncer les complots les uns après les autres, même si c'est vachement intéressant, et on le fait aussi inévitablement. J'ai essayé de dégager une structure du discours conspirationniste, parce qu'après tout, vous parlez, on peut en fabriquer un là tout de suite, il suffit d'avoir les ingrédients, c'est une recette, hein, il suffit de prendre, comme vous dites, de fausses preuves, un univers un peu mystérieux, un thème récurrent classique, une affaire...
Alors donnez-nous la recette, Frédéric Charpier, parce qu'on a tous envie d'écrire un best-seller, alors.
Écoutez, si je le connais...
Mais c'est vrai que vous avez écrit dans votre bouquin L'Obsession du complot, vous avez décrit un certain nombre de complots, et vous en tirez effectivement une espèce d'architecture générale qui s'applique à tous.
Bah, si vous voulez, on peut prendre par thème. Hein. Ouais. Il y a les ingrédients, puis il y a les thèmes. C'est vrai, par exemple, ce qui attire spontanément les thèses conspirationnistes, c'est l'assassinat. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de thèse conspirationniste sans un assassinat, une sorte de crime fondateur de la thèse. Et à partir de là, vous pouvez, alors, l'actualité récente a remis le boulin sur la scène. Bon, il y a eu un livre remarquable d'enquête, qui a été fait par un journaliste de France Inter, qui est un ouvrage au niveau de l'enquête remarquable. Mais hélas, quand on entre dans la lecture, ce que j'ai fait, je l'ai lu attentivement, on retrouve là les signes. Alors, par exemple, je vous donne juste un exemple pour coller à quelque chose de récent, enfin, puisqu'il s'agit de ce livre. Les lettres qui auraient été postées par Boulin étaient trop lourdes, dixit le postier qui les aurait relevées. Ça devient un élément troublant qui va de manière récidivante tout au long du récit.
Comme on écrit dans la presse soviétique, Nie slucha, il n'y a pas de hasard.
Exactement.
Voilà, il n'y a plus jamais de hasard.
On n'a que le témoignage de ce postier. Voilà. C'est-à-dire que ce qui va peu à peu étayer, voyez, une thèse ne repose finalement au départ que sur ce qu'a dit, peut-être vrai d'ailleurs, moi je n'en sais rien, mais probablement faux, a dit un postier.
Et puis il y a quelque chose qui est commun, très commun à toutes les théories du complot,
c'est que
quasiment systématiquement, ces théories visent les élites, ou en tout cas s'intéressent aux élites. Et pour reprendre quelques exemples assez récents, et d'ailleurs dans des ordres très différents, l'affaire Baudis, les inondations de la Somme, le 11 septembre et la mort de Diana, quelques exemples un peu comme ça au hasard, à chaque fois ce sont les élites qui sont soupçonnées, accusées, etc. Et c'est là où je vais rebondir sur ce que disait Alexandre Allaire tout à l'heure et son livre. Je ne sais pas si plus de démocratie, ça veut dire moins de complot. Oui, d'une certaine manière, bien sûr, puisque la transparence, évidemment, bon. Mais je crois aussi, et d'ailleurs, l'époque qu'Alexandre raconte, c'est-à-dire le XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, en gros, c'est exactement l'époque où s'invente la politique moderne, autrement dit, l'exercice moderne du pouvoir. Et l'exercice moderne du pouvoir, c'est l'invention de systèmes complexes, de procédures complexes, de systèmes de représentation, de systèmes exécutifs, de gouvernements qui sont
et
complexes.
Et de coprésence d'éléments antagonistes qui ne cherchent pas à se supprimer les uns les autres. C'est ce que Francis Crick définit comme la politique qui, selon lui, précède la démocratie mais la permet. L'idée qu'il existe des oppositions politiques, on ne peut pas surmonter. C'est très précisément ce que beaucoup de systèmes n'acceptent pas.
Qu'il existe des contradictions politiques et des incarnations politiques, autrement dit, des gens qui ne sont pas des seigneurs locaux que l'on peut toucher, mais qui représentent la souveraineté nationale, par exemple. Et c'est à cette époque-là, c'est-à-dire à cette époque de l'invention de la politique, où se pose la question de qui agit, qui agit dans ces systèmes complexes, que l'on voit éclore énormément des complots dont aujourd'hui nous avons encore des proliférations, et en particulier toutes ces théories du gouvernement mondial, autrement dit, enfin qui vont depuis les Rose-Croix jusqu'aux Templiers, en passant aujourd'hui aux Illuminati, puis la Trilatérale, Bilderberg et tout ce que vous voulez, qui à chaque fois ont des éléments de vérité, bien sûr, ces groupes ont souvent existé, mais voilà, moi je vois quand même un rapport entre la démocratie moderne et les théories du complot. C'est comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre d'une certaine manière.
C'est-à-dire qu'il faut quand même là voir les choses clairement. Toutes les sociétés, et particulièrement les sociétés les plus dynamiques, par exemple dans la guerre froide, ont cherché à contourner la démocratie et la démocratie d'opinion pour créer, je dirais, des cellules qui sont à l'abri justement du débat politique. Et ce faisant, elles ont donné prise à l'action des complots, ou elles en ont engendré.
Vous faites allusion, par exemple, à Bilderberg, la Trilatérale.
Oui, Bilderberg, comme j'y étais invité, je tiens absolument à dire que c'est une chose tout à fait innocente.
Vous n'ignorez pas non plus que ça a servi de terreau.
Bien sûr, je le sais. Mais Bilderberg, qui est une création en fait de la monarchie hollandaise et belge pour rapprocher les États-Unis et l'Europe occidentale, rendre l'OTAN, donner une organicité intellectuelle à l'OTAN, qui est une chose tout à fait innocente. La Trilatérale, qui a été la volonté à un moment donné de recréer une alliance occidentale incluant le Japon et faisant participer les grands décideurs à une espèce de réflexion stratégique en profondeur à un moment où, après la guerre du Vietnam notamment, les États-Unis étaient en difficulté. Ce sont des choses qui sont connues, qui sont absolument, qui ont pignon sur rue. Moi, je connais le secrétaire général de Bilderberg, c'est un charmant monsieur qui habite Amsterdam, sur un canal.
Il y a eu plusieurs époques aussi dans Bilderberg, c'est-à-dire que
c'était plus discret.
Voilà, vous connaissez aujourd'hui le secrétaire général, fut un temps où Ratzinger était assez mal connu.
Vous avez raison, parfaitement. Mais cela dit, voilà, là, mon point était le suivant, c'est qu'à un moment donné, notamment à l'apogée de la guerre froide, les États-Unis, par exemple, faisaient en sorte que la prise de décision, la vraie, ne soit pas ni celle du Congrès, ni celle de la presse, ni celle de l'opinion, mais qu'elle se fasse entre un nombre de few good men. Et là, nous avons, en fait, dans le cœur de l'État américain, quelque chose qui n'est évidemment pas démocratique. D'ailleurs, le Sénat et la Chambre ont tout fait après Watergate pour petit à petit revenir sur cela. Il y a avec le comité du renseignement du Sénat. La CIA est devenue une organisation d'une puissance incroyable. Il faut rappeler qu'il y avait 28 membres, y compris secrétaires, dactylos et chauffeurs, dans le service de renseignement américain en 1930. Que Henry Stimson, qui avait été chef des Eagle Scouts, disait qu'il fallait démanteler le service cryptographique qui lisait les codes des pays adverses parce que c'était pas loyal.
Ah, c'est l'époque où on n'ouvrait pas les lettres parce que c'était pas correct.
Hein. Bien entendu.
Semaine, on pas les lettres,
et puis tout d'un coup, l'Amérique se retrouve avec quand même un budget incroyable de collecte du renseignement. Et il est évident qu'il y a eu un complot, celui qui a abouti à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. On est de moins en moins, évidemment, si qu'on aurait pu l'être 5 minutes. Dupe de cette histoire d'Oswald, et que le complot ramifié n'a pas été encore complètement mis au jour, mais cette structure secrète qui n'était pas faite au départ pour tuer a fini après la crise de Cuba, et à un moment où Kennedy semblait décider d'agir complètement indépendamment de certaines structures militaires et de renseignement, il a fini par tomber sous leur coup. Donc c'est là où le bon peuple a une certaine logique. Par exemple, au moment de l'assassinat de Henri IV, on est allé faire le siège du collège des jésuites. La foule voulait prendre des jésuites qu'elle a accusés d'avoir inspiré le lac de Ravaillac. Je n'ai pas la moindre idée de la participation jésuite à la mort d'Henri IV, encore qu'elle fût arrivée à un bon moment pour l'Espagne. Mais en tout cas, Henri III, lui, a bel et bien été tué par un agent de la Sainte Ligue et de l'Espagne, le moine Clément. Et les jésuites de l'époque, aujourd'hui ils sont à l'inverse de cela, avait encouragé une théorie du régicide, en disant que la mort d'un roi impie était un devoir pour un chrétien. Alors tout ça fait que effectivement il y a une espèce d'exaltation populaire, et puis il y a les faits.